Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Les archives de Madame du Châtelet.
Ah, monsieur, nous vivons au bout du monde. Il faut avoir tué père et mère pour venir s'enterrer au fond de cette champagne.
Il est vrai que Sirène se trouve sur la route de nulle part.
Un désert, un vrai désert.
Mais si près de la frontière, si rassurant. Quelques pas à faire et je me réfugie en Lorraine.
Il faut venir à Sirène pour y venir. On ne peut pas faire un crochet et dire d'un air détaché « Je passais par hasard ». Non, pour venir ici, il faut nous aimer.
Et qui n'aimerait la belle Émilie?
Le général de Gaulle, autre grand Haut-Marnais, venait à Sirène pour Sirène en voisin depuis Colombey. Il venait pour la beauté des collines boisées alentour. Sa déesse franchissait la Blaise, laissait la grille du château à gauche, puis le général s'enfonçait dans la forêt. Sous son règne circulait le billet de 10 francs qu'on appelait le Voltaire. Et derrière le portrait de l'écrivain figurait le château, n'était-ce pas lui, qu'il avait réaménagé de fond en comble avec son propre argent. À l'époque, on ne parlait guère de l'âme de l'endroit. Émilie du Châtelet. Elle avait 28 ans seulement quand elle offrit l'hospitalité en 1734 à son amant Voltaire, mais elle était déjà une femme de science remarquable. Sirène, sous leur conduite à deux, devient dans la République des Lettres une manière de capitale et pour ses habitants, un lieu d'une fécondité exceptionnelle. Pour Voltaire, qui produit beaucoup à visage découvert, et pour Madame du Châtelet, qui silencieusement se prépare à publier sous son nom et à introduire le système de Newton en France. Sirène aujourd'hui entretient très exactement leur mémoire. L'aile du château que Voltaire avait construite pour Madame du Châtelet est conservée très précisément jusque dans ses couleurs. Mais il manquait les archives.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Samuel Mourin, bonjour.
Bonjour.
Qui travaille aux archives départementales de la Haute-Marne. Et vous êtes le co-commissaire d'une exposition qui a lieu jusqu'au mois de décembre au nouveau logis des archives départementales. Ça porte un très joli nom. Le nom du village, double, à partie double, c'est
Chamarandschwein.
Voilà.
Dans la banlieue. Entre guillemets, de Chaumont.
Puissante ville moyenne d'au moins combien de milliers d'habitants?
22 000.
Oui, ah bah c'est beaucoup pour la Haute-Marne. Des trésors sont présentés aux archives départementales de la Haute-Marne. Il y a 100 ans, vous aviez réussi à obtenir des papiers Diderot. Et maintenant, vous avez des papiers de la famille du Châtelet. Vous avez été avec Monsieur Petrazolaire et Alain Morgat, nouveau directeur des archives départementales, de ceux qui les avaient classés et les présentés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces archives de la famille du Châtelet? La famille du Châtelet s'éteint dans ses 5 branches au moment de la Révolution française et le château de Sirène, qui est une des propriétés de la famille, passe aux mains d'une autre.
Tout à fait. En fait, ça, le duc du Châtelet, en fait, dès 1789, fait une donation de la terre de Sirène à sa nièce, qui est en fait Diane Adélaïde d'Amas. Et donc, on entre en effet dans la branche de d'Amas.
Grande famille catholique qui fait construire une chapelle, peut-être en réparation des fautes de Voltaire. Et cette famille finit par vendre à la fin du 19e.
Voilà, en 1892, Henri de Damas vend la terre de Sirène pour se faire construire un petit château, une belle maison, on va dire, dans l'Aube, à René l'Hôpital. Et les archives, en fait, suivent, en fait. Ces archives tombent un petit peu dans l'oubli tout au long du XXe siècle.
Elles sont dans un grenier.
Elles sont dans un grenier, tout à fait, dans des caisses, ce qui est d'ailleurs leur apporte quelque peu préjudice parce que des papiers, des parchemins ont été rongés, en fait, par les rongeurs, les rats.
Et une caisse, deux caisses, huit caisses, 10 caisses.
Oh, c'est une quinzaine de caisses. Aujourd'hui, le fonds représente environ 34 mètres linéaires, ce qui est assez considérable pour un fonds privé.
Alors, vous parlez du fonds que vous, aux archives départementales de la Haute-Marne, vous possédez. Ce n'est qu'une partie du fonds. C'est la partie, comment dire, historique, la partie qui correspond au château, à la gestion du domaine, à l'histoire de la famille. Il y avait aussi les archives scientifiques.
Tout à fait. Les archives scientifiques, alors on va dire qu'aujourd'hui, on a à peu près 98-99% des papiers aux archives départementales, mais par contre, les manuscrits de la main d'Émilie ou avec des annotations de Voltaire n'ont pas été achetés par les archives départementales et ont été vendus aux enchères en octobre 2012.
Chez Christie's, et l'État Christie's ne pouvait suivre. Et qui a acheté?
C'est la société Aristophile.
Ah, la société Aristophile. Et c'est une société de cavalerie. Enfin, qui organisait le fameux musée des lettres.
Exactement,
et des manuscrits, et qui est maintenant sous scellé.
Qui a des déboires judiciaires, comme on le sait.
Donc les manuscrits scientifiques sont inaccessibles et pour longtemps.
Voilà, mais il n'est pas exclu qu'ils soient remis dans le circuit à l'avenir.
Heureusement quand même que pour la conservation, il est les structures d'État. On va raconter ce que ces archives nous rapportent, en commençant par le début, l'arrivée en 1734 de Voltaire. Il vient de publier les lettres philosophiques, les lettres anglaises. Il est en difficulté avec le régime et... Par contre, en excellente relation avec Émilie, le tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, jeune femme du monde et de science, qui a déjà donné 3 enfants à son mari, qui du coup la laisse un peu libre et elle offre l'hospitalité à Voltaire aux confins de la Champagne et de la Lorraine. Nous sommes en mai 1734 et c'est l'écrivain qui arrive le premier.
Bienvenue au château de Siret, monsieur. Occupez-vous des bagages, Picard. Monsieur n'est pas trop fatigué par la route?
Je ne suis pas fatigué, mon ami, j'agonise. Mais le refuge offert par l'amitié me ressuscite. Oh, il fait glacial ici.
Ah, il faut dire que monsieur et madame ne viennent pas très souvent. Le climat est si rude, si humide, l'oreille.
Il y a des planches pour ranger mes livres, de l'encre pour écrire et une cafetière pour me réchauffer, je serai heureux.
Puis-je demander à monsieur s'il a apporté quelques exemplaires des lettres anglaises?
Une dizaine, pourquoi?
Le curé nous aurait dit tant de mal dimanche dernier que ça m'a donné envie de les lire.
Nous allons être amis.
Pardon, mon ami. Pendant la grande famine, est-il vrai que les gens mangeaient des racines?
Mangeaient des racines, des chiens, tout, n'importe quoi.
On vous l'a dit ou vous l'avez vu?
Je l'ai vu et je l'ai fait, monsieur.
Merci, Picard. Tiens, ajoutez celle-ci pour la poste, s'il vous plaît.
Eh bien, sous votre respect, monsieur, si vous n'avez pas écrit 1000 lettres depuis votre arrivée, c'est que les poules ont des dents pour manger les renards.
C'est que j'ai entrepris un livre d'histoire, mon ami. Et il ne suffit pas d'avoir des informations, car elles peuvent être fausses. Si vous les publiez, d'autres les recopieront et le public sera ainsi dupé pendant des siècles.
Oui.
Moi, je vérifie tout. Vitam impendere vero.
Oui, bien sûr.
La vérité, mon ami.
Ah, il faut apprendre à parler latin pour fréquenter Siret. Voltaire va y commencer le siècle de Louis XIV. Madame du Châtelet n'aimait pas beaucoup les livres d'histoire et elle trouvait que ce n'était que des récits de batailles et d'intrigues truffés d'erreurs et d'imprécisions et elle préférait d'autres types de travaux. C'est drôle, les domestiques s'appellent toujours Picard. Là, le fermier, en fait, il s'appelle Perrin parce qu'il y a un fermier qui s'occupe de l'ensemble du domaine.
Tout à fait. Qui s'occupe du domaine, de la gestion notamment des bois, parce que le domaine de Siret comprend énormément de bois.
Ça, on sait maintenant quel est, grâce aux archives, le nombre d'hectares de
le
bois.
Le nombre d'arpents.
Enfin, on calculait en arpents.
En arpents, mais bon, oui, tout à fait.
Dites-nous en hectares, Samuel. 2500?
Je n'ai plus le chiffre en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est stable en fait tout au long du XVIIIe siècle. Et même au XIXe, on retrouve à peu près le même chiffre.
Et avec les bois, on peut nourrir les hauts fourneaux
les
de
forges,
la vallée de la Blaise et les forges.
Parce que la Haute-Marne est, dès le XVIIIe siècle, déjà réputée pour sa métallurgie. Ça sera encore évidemment plus important au XIXe siècle. Et à Siret, eh bien, on trouve 2 forges, une forge du haut, une forge du bas. Et en effet, on y produit d'ailleurs tout un ensemble de pièces métalliques pour le château également. Et puis on en vend, et ça fait partie donc des revenus.
Si le château, qui dans son dernier état date de l'époque de Louis XIII, est juste entretenu, c'est que les du Châtelet ont beaucoup d'autres propriétés. Cette famille issue de Lorraine a essaimé dans toutes les régions alentour.
Oui, oui, en effet, en fait, on s'en aperçoit évidemment grandement par le biais des archives, c'est que la partie concernant Siret finalement est mêlée à de plus grands ensembles qui touchent la Haute-Saône, le Doubs, en fait, et donc des possessions franc-comtoises.
Mais c'est tout de même de Madame du Châtelet, épouse de ce puissant marquis, et de Voltaire, Voltaire qui est le plus riche.
Oui.
Parce que Voltaire, il fait fortune avec quoi? La fourniture aux armées?
La fourniture aux armées, en effet, il est vraiment impliqué dans tout un ensemble d'opérations financières, on va dire. Les du Châtelet, au contraire, en fait, ont tout un ensemble, sont plutôt endettés. Et Siret n'étant pas le lieu principal, en fait, évidemment.
Et on ne parle pas du commerce de blé entre la Barbarie et l'Espagne, ni à Cadix, du commerce avec les colons des Antilles. Donc l'officier, c'est Monsieur du Châtelet qui est au combat, voilà, et Voltaire, le fournisseur aux armées, est avec Madame.
Exactement.
Et il embellit, agrandit les jardins et les bâtiments pour Madame.
Dès 1734, en fait, il va embellir les jardins, faire construire une nouvelle aile également, destine en fait à ses activités, puisqu'on y retrouve notamment un cabinet de travail. Il fait réaménager aussi de très beaux appartements pour Émilie du Châtelet, avec des bains qui sont dans un entresol en fait.
Et toutes les couleurs éclatantes qui sont à la mode dans les années 1730 et que les propriétaires actuels ont restitué d'ailleurs.
Donc le bleu,
du jaune, du bleu, du vert.
Bleu, jaune majoritairement pour Émilie. Et on voit d'ailleurs que le mobilier également suit la tendance, puisqu'on est on a laissé le Louis XIV pour le mobilier régence, et tout ça évidemment est en écho avec les couleurs des appartements.
Et il fait dessiner, Voltaire, une porte pour cette aile nouvelle. Elle est dessinée par Monsieur Lebrun.
Monsieur Lebrun, tout à fait, de son prénom Pierre,
voilà.
Qui pourrait avoir un lien avec le grand peintre Charles Lebrun, mais tout ça reste encore à prouver.
Et le sculpteur, c'est Louis Daoust. Vous avez toutes les traces dans les archives de l'histoire de cette porte que nous décrit la propriétaire actuelle, la comtesse de Salignac-Fénelon.
La porte est réalisée par Voltaire. Selon ses instructions. Alors vous avez tout à l'intérieur, tout un décor marin, avec Neptune les yeux ouverts, Neptune les yeux fermés, qui représente la vie et la mort. Et tout ce décor marin tiendrait à ce que Voltaire pensait, que l'origine de la vie était dans la mer. Et alors sur les bas-côtés de la porte, vous avez tous les attributs des arts et des sciences. En commençant par le haut, à droite, vous avez l'astronomie avec la map monde, la peinture avec la palette, la sculpture avec le maillet et la musique avec la cornemuse. Et sur la gauche, vous avez, en commençant par le haut, l'astronomie avec la lunette, les méridiens, les parallèles, la géométrie avec le compas et beaucoup plus bas, la plume et l'étui à plume qui représentent la littérature.
Et en haut, une inscription en latin, toujours le latin, chiffre de mémoire, je crois que c'est Deus haec fecit ossi, c'est-à-dire Dieu a fait ici. L'osium. Enfin, l'osium, c'est le loisir constructif, hein, parce que l'emploi du temps, il est serré. Hein.
Il est chargé, en effet. A priori, des expériences très tôt le matin, voire même peut-être des nuits blanches, on pourrait peut-être le dire.
Tout honneur, ce sont des nuits consacrées
tout à fait,
au travail.
Tout à fait, bien entendu.
C'est bien entendu comme ça qu'il faut les entendre.
De la recherche, des expériences. Et puis vient le temps aussi des lectures, des moments de divertissement avec les invités à Siret, qui étaient toujours en nombre, on le sait. Et puis donc en soirée, un repas pour terminer la journée. Et finalement, peut-être rouvrir une autre derrière pour Voltaire et Émilie, puisqu'ils consacraient quand même beaucoup de leur temps à la recherche.
Alors, parmi les invités, il y a eu un moment, pendant un mois, un certain Albarotti, dont on disait qu'il préférait les hommes, donc Voltaire n'avait pas à se méfier de lui, et il préparait un livre qui allait s'intituler « Le Newnotisme pour les dames ». Parce que on travaille sur le système de Newton, dont on vous donnera quelques linéaments tout à l'heure, tout en faisant de la musique à Siret. Dans nos champs, l'amour de flamme
Section 2. De l'attraction des corps en ayant égard à leur figure. Proposition 1. Problème 1. Trouver l'attraction de la surface sphérique dont le diamètre ferait AB sur un corpuscule P placé sur le prolongement de ce diamètre en supposant que toutes les parties de cette surface sphérique attirent comme une puissance quelconque N de la distance.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Madame du Châtelet, extraordinaire femme de science, introductrice du système de Newton en France, elle commence à cirer la traduction du latin au français des principes de Newton. Actuellement, aux archives de la Haute-Marne, à Choignes-Chamarandes, à côté de Chaumont, une exposition consacrée aux archives du Châtelet, qui ont été acquises par les archives départementales il y a de cela...
Trois ans.
Les archives scientifiques, les textes relatifs au travail de Newton et à sa réception, on ne peut pas les voir, on n'est pas prêt de les voir, puisque chez Christie's, les enchères ont été emportées il y a 3 ans aussi par l'excellente société Aristophile, qui s'est spécialisée dans la vente de parts d'autographes à des investisseurs crédibles et qui a fait exploser les prix des lettres, des autographes et des manuscrits. Tout de même, vous allez pouvoir, Samuel Mourin, vous qui avez classé les archives historiques de Madame du Châtelet, nous dire ce que sont un peu ces archives scientifiques et qu'est-ce que c'était que ce travail sur Newton à Ciré.
Alors, ces archives scientifiques, en fait, étaient principalement composées de manuscrits inédits. On en a retrouvé notamment dans l'ancien hôtel du Châtelet à Paris, puisque c'était le fils qui avait récupéré la bibliothèque de sa mère.
L'hôtel du Châtelet, c'est l'actuel ministère du Travail.
Ministère du Travail, tout à fait. Et à l'époque révolutionnaire, en fait, l'école des Ponts et Chaussées, en fait, s'y trouvait. Le directeur avait le droit de préempter un certain nombre de volumes, mais il ne s'est pas privé de le faire, pour le bien probablement, puisque ça a permis de conserver ces volumes qui n'ont été redécouverts que identifiés finalement que récemment, à partir de 2010.
La préemption par l'État ou la négociation par l'État à des prix normaux, c'est souvent préférable, vous voyez, au simple mécanisme sans régulation de la propriété.
Bien entendu, d'autant plus que quand on parle d'un fonds d'archives, en fait, il y a toujours cette idée de respect du fonds qui est primordial. Et l'acquisition de gré à gré par le conseil départemental de la Haute-Marne il y a 3 ans a permis finalement de sauvegarder une unité dans ses archives.
Je vous parlais d'Algarotti qui préparait en 1734 son volume de 1735, le Newtonisme pour les dames. Alors le Newtonisme pour les dames, expliquez-nous Samuel Mourin. Qu'est-ce que c'est le grand principe que Newton a mis au point au siècle précédent et que va traduire dans une langue moderne Madame du Châtelet?
Alors en effet, ce que Newton en fait écrit, déjà c'est en latin, dans un latin un peu plus compliqué. Le grand travail d'Emily va être non seulement une traduction, mais en fait une mise à la portée de tous, enfin de tous, peut-être pas de tous, mais en tout cas du plus grand nombre de ces principes. Et donc c'est-à-dire
la recherche de l'unité dans le système solaire, la gravité, et notamment la loi de la gravitation.
La loi de la gravitation, et voilà. Donc des activités qui vont lui prendre quand même un grand nombre d'années, en fait, puisque les principes mathématiques de Newton ne seront publiés que 10 ans après sa mort.
Elle est morte en 49.
Elle est morte en 49, et ce n'est qu'en 1759 que paraissent les 2 volumes des principes mathématiques, et les spécialistes disent que ce travail fait encore référence d'une certaine manière.
C'est-à-dire que quand ils vivaient ensemble, ils ont été en permanence entre 1734 et 1739 à Ciré, Madame du Châtelet et Voltaire. Voltaire publiait sous son nom des éléments de la philosophie de Newton parce que Madame du Châtelet ne pouvait pas encore faire paraître de texte sous son nom.
Exactement. Pour une dame à l'époque, ça aurait été s'exposer au discrédit ou en tout cas à la moquerie éventuellement. Hein. Donc non, en fait, elle va vraiment de son vivant finalement, il n'y aura que les institutions de physique qui vont être publiées, et puis on reparlera tout à l'heure, je crois, la dissertation sur le feu, donc les institutions de physique à destination de son fils.
Alors allons-y pour la dissertation sur sur le feu en 1737. Ils sont là ensemble depuis 3 ans. Ils décident de concourir séparément à un prix de l'Académie des sciences sur la nature du feu.
Exactement. La nature du feu. C'était donc un concours qui était prévu pour 1738. Et tant Voltaire que Émilie ont mené finalement des expériences à Ciré, principalement Voltaire en fait. Oui. On s'aperçoit que Madame du Châtelet n'a pas forcément eu accès, voilà. Et surtout leurs résultats divergent.
Oui. Et les méthodes divergent. Est davantage à la forge. Vous disiez que les expériences pouvaient avoir lieu au petit matin, par exemple, à la forge sur la Blaise.
Vous pourriez commencer par concourir au prix de l'Académie.
Comment le gagne-t-on, ce prix ?
Par un mémoire. Le sujet proposé cette année est la nature du feu et sa propagation. Il y a ici plus que le nécessaire pour fabriquer un travail qui fera date.
Vous ne parviendrez jamais à vérifier votre hypothèse, idiote ! Le feu n'est pas pesant, mais volatile.
Me laisserez-vous tâtonner à ma guise, à la fin?
Puisque je vous dis que vous vous égarez.
Mais d'où vous vient cette certitude que vos présomptions sont toujours des commandements? Dieu parlerait-il par votre bouche?
Il faut savoir abandonner une hypothèse que l'expérience ne cesse de contredire, quand on se pique de physique.
Si vous étiez un homme, votre place serait certes à l'Académie, parmi ces inquisiteurs qui pensent avoir tout compris, tout deviné une fois pour toutes.
C'est vous qui espérez les rejoindre.
Mais c'était votre idée, madame. Et je vois bien que cela vous tracasse fort désormais. Je ne sais pour rien si vous êtes femme. Je n'ai pas fait ce monde. On le refuse de vous donner un rôle.
Bon, alors version un peu romancée, Divine Hélénie, Émilie, le film de Arnaud Sélignac. Mais si on revient à ce que l'enseignement des archives nous apporte. Au fond, les livres les plus importants, c'est Madame du Châtelet qui les prépare à Ciré. Soyez sincère, Samuel Morin.
On pourrait dire ça, oui, tout à fait.
Parce que Newton, c'est plus important que la pucelle.
Newton, c'est plus important que la pucelle. Alors après, ça dépend de quel point de vue on pourrait se placer.
Bah, la pucelle a eu beaucoup de succès.
Mais en fait, c'est surtout que beaucoup de... la renommée, finalement, d'Émilie a surtout été mise en avant à partir des années 60, quand on s'est aperçu que finalement, elle avait elle-même signé beaucoup de textes, en fait, et qui n'étaient pas de Voltaire, ou... En tout cas, il y avait ce sentiment de misogynie à son égard dans l'historiographie qui était assez important, et ce n'est que depuis peu, finalement, grâce notamment à Elisabeth Badinter également.
Il arrivait autrefois qu'on publie des livres sur Madame du Châtelet qui s'intitulait Madame Voltaire.
Exactement.
Ils pouvaient diverger dans les expériences, ils ont fini par diverger de plus en plus, mais enfin, ils se retrouvaient dans le jeu, encore que Madame du Châtelet était peut-être plus acharnée au jeu que Voltaire, et dans le théâtre qu'ils écrivait quotidiennement et qui était représenté vespéralement dans une salle aménagée tout exprès dans les combles du vieux château Louis XIII.
Voilà le petit théâtre que Voltaire a fait aménager dans les combles du château quand il est arrivé à Ciré. C'est un théâtre absolument privé, n'y avait accès que les invités personnels de la marquise du Châtelet et Voltaire.
Venez me rendre les clés et que je vous paye vos gages.
Je suis bien fâché de vous quitter.
Vous riez, je crois.
Oh, je ne peux plus me retenir. Tout franc, c'est que comme il y a longtemps que je suis las de votre humeur acariâtre, j'ai dit à part moi, si madame voit que je vais me congé, elle sera pas de sa vie.
Quoi? Afin que je vous chasse? Vous voulez me quitter, alors moi je ne veux pas que vous me quittiez.
Avant cet extrait de texte, on entendait le comte de Salignac-Fénelon. Il faut quand même rendre hommage à cette famille qui n'est pas du tout du genre aristophile et qui tient bien le château de Ciré. Et le texte faisait référence aux domestiques. Il faut quand même qu'on parle aussi des domestiques. Les archives nous racontent la vie précise des gens à Cirey sous l'autorité de Voltaire et d'Émilie.
La vie quotidienne, exactement. On a tout un ensemble de factures, de quittances qui nous permettent de savoir ce que mangeaient la marquise et Voltaire, avec quoi ils s'habillaient. On a tout un ensemble également de gages des domestiques. On voit d'ailleurs que les domestiques sont quand même payés régulièrement, ce qui n'était pas toujours le cas à cette époque-là.
Vous racontez dans l'excellent catalogue que souvent, les domestiques n'étaient payés qu'à la mort des maîtres.
C'était assez fréquent, en effet.
Là, ils sont payés assez précisément.
Ils sont payés assez précisément.
Et bien payés.
Il faudrait certainement comparer avec ce qui se passait dans d'autres familles, mais a priori, probablement. On voit également d'ailleurs des marchés d'habillement pour ces domestiques. Le marquis du Châtelet en fait fait faire des habits pour ses domestiques, donc ils ont d'ailleurs une sorte de décoration rappelant en fait leur service en fait. Oui.
Mais ça c'est pour la montre, la livrée. Mais on vivait quand on n'était pas Émilie ou Voltaire, comment au château de Cirey, même quand on était un simple invité. Il paraît que c'était mal chauffé, que les fauteuils étaient simplement canés, quand on était un hôte de deuxième ordre.
En effet, et Madame de Graffigny a notamment laissé des témoignages assez... assez marquants, en fait, de cette... de la façon de vivre des autres, en fait. Il semble que les chambres n'étaient pas chauffées, naturellement, et pas bien meublées.
Oui, il y a un certain nombre d'autres qui racontent, après coup, leur mécontentement. Madame de Graffigny est très connue pour ses textes. Exactement. Mais voici Monsieur de Villefort.
Après une demi-heure de conversation, une cloche sonna. C'était pour le souper. En descendant la salle à manger... Il y avait à chaque bout un tour comme ceux des couvents de religieux, l'un pour servir, l'autre pour desservir. Aucun domestique ne parut, on se servait soi-même. La chère fut merveilleuse, le souper long. À une certaine heure, la cloche se fit entendre de nouveau, c'était pour avertir qu'il était temps de commencer les lectures morales et philosophiques, ce qui se fit avec la permission de l'étranger. La cloche, au bout d'une heure, avertit qu'il fallait aller se coucher. On y va. Et à 4 heures du matin, on va éveiller l'étranger pour savoir s'il veut assister à l'exercice de poésie et de littérature qui vient de sonner. Complaisance ou curiosité, il s'y rend. Le lendemain, Vénus et Adonis dans un char et l'étranger à cheval furent manger des côtelettes au coin d'un bois et toujours les livres en laisse suivants.
Après 5 ans de vie commune très serrée, le tissu commence à se défaire à partir de 1739-1740. L'attirance de la Hollande, l'attirance de Frédéric II, l'attirance de Paris, l'attirance de Versailles, l'attirance de Madame du Châtelet pour le jeune Saint-Lambert. D'un mot, comment meurt-elle ?
Eh bien, c'est des complications à la suite de d'une grossesse tardive, finalement, et d'une naissance tardive.
Et Voltaire saute au cou de Saint-Lambert, vous me l'avez tué, mon Dieu, monsieur, pourquoi vous êtes-vous avisé de lui faire un enfant ?
Exactement.
Les du Châtelet s'éteignent. Il y a une deuxième grande dame à laquelle vous allez sans doute consacrer un livre qui s'appelle Adélaïde de Simiane et qui a ensuite refait Cirey.
Exactement, à partir donc de la Révolution, tout simplement, quand le duc lui a donné Cirey, eh bien c'est elle qui donne un renouveau à Cirey. Il y aura notamment une petite société charmante sous la Restauration, et puis également une réputation de sagesse et de bienveillance et bienfaisance. Autour d'elle.
Merci, vous nous avez parlé des deux dames de Cirey, une exposition aux archives départementales de la Haute-Marne à côté de Chaumont. Mathieu Vidard, quel est le programme, puisque nous reprenons de conserve?
C'est ça, oui, c'est la rentrée de la tête au carré. Nous irons dans notre boîte crânienne, justement, pour étudier les mythes liés au cerveau et les manipulations de nos capacités cérébrales, Jean.
Voilà, notre guide, c'était Julien Chabassu, notre réalisateur Jacques Sigal. Allez, on change pas les bonnes équipes. Et à 14h, c'est Laetitia Gaillet.